on a le plaisir de recevoir Mathieu Durieux du Petit Faucheux à l'occasion du Festival Superflu qui revient pour une 12e édition du 4 au 6 avril. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Campus.
Et donc ce Festival Superflu, c'est un rendez-vous annuel à la rencontre de musique surprenante, expérimentale. Qu'est-ce qu'il cherche à transmettre au public ?
Qu'est-ce qu'il cherche à transmettre au public ? De passer un bon moment, déjà. On a souvent dans les festivals là, des musiques qui se chantent, qui se dansent. Nous, on propose des expériences un peu sensorielles. Il n'y aura pas forcément des couplets, des refrains dans les morceaux et les musiques qu'on va entendre à Superflu, mais on va essayer de proposer des émotions et des sensations, parfois même physiques, au public. Donc, avec des musiques qui sortent un peu des codes habituels, qui sont très bien aussi, hein, qu'on adore, mais voilà, on essaie de proposer une autre approche un peu de l'expérience musicale et de l'expérience auditive et sonore dans ce festival.
Moi, je suis Audran, je suis le directeur du Temps Machine, qui est une salle à jouer les tours, scène de musique actuelle. On co-organise le Festival Superflu depuis 12 ans avec le Petit Faucheux, et donc je laisse Sylvain se présenter.
Ben voilà. Sylvain, le directeur du Petit Faucheux. Le Petit Faucheux, c'est une salle de concert dédiée au jazz et aux musiques improvisées. Et on a, à l'instar du Temps Machine, une saison de concerts de septembre à juin, sur des programmations très très diverses et variées. Et on a des temps forts, dont ce festival, effectivement, coproduit avec le Temps Machine.
Comment s'est née cette coproduction, en fait ?
Alors, c'est une histoire qui nous précède, parce que ça, donc c'est la 12e édition, je ne dis pas de bêtises, sachant que le Temps Machine a à peu près cet âge-là, puisque c'est ouvert en 2011. Donc, c'est une co-organisation qui fait suite, en fait, à des événements qui existaient auparavant, déjà, qui étaient portés par le Petit Faucheux, hein, sur ces esthétiques un peu particulières qui sont celles de Superflu, c'est-à-dire en gros, on va dire au sens très large, les musiques expérimentales, on appelle ça surprenante parce que c'est plus aguicheur et plus ça correspond mieux à notre état d'esprit. L'idée, c'est que nos deux salles se rencontrent et que surtout on essaie de travailler conjointement une programmation musicale qui soit un petit peu à côté de ce qu'on peut faire le reste de l'année. En machine, on n'est pas spécialisé, on travaille sur toutes les esthétiques des musiques actuelles, rock, rap, techno, tout ça. Et pour nous, Superflu, c'est l'occasion de travailler sur de proposer des formes artistiques différentes qui sont souvent peu ou pas représentées sur le territoire et de manière plus générale. Mettre en commun nos moyens avec le Petit Faucheux, qui a aussi son champ d'expertise sur les musiques improvisées et le jazz de manière plus générale. Et donc de proposer des choses qu'on ne ferait pas le reste du temps, en fait, voilà. Et surtout d'offrir une diversité de choses et de propositions artistiques et musicales qui n'existeraient pas sans un effort conjoint.
Sylvain, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
C'est un terrain de jeu Superflu pour nos équipes déjà. On aime sortir de chez nous, de nos lieux, faire des choses ensemble, se croiser, se mélanger. Donc c'est déjà aussi une expérience pour nous-mêmes et qu'on espère aussi partager avec le public. Voilà, la nouveauté depuis 2 ans, je le disais tout à l'heure en ouverture du concert, c'est qu'auparavant, c'était un festival qui se déployait un peu hors les murs, on appelle ça, c'est-à-dire dans des lieux divers, une chapelle, une cave, plein de lieux extrêmement intéressants, avec des esthétiques de niche, on va dire, où on avait l'impression qu'il y avait besoin de se renouveler en fait, sur l'adresse au public. Dans le sens où on est sur des esthétiques totalement en dessous des radars, invisibles, mais on croit qu'elles peuvent rencontrer un spectateur et des spectatrices via une expérience particulière. Et c'était ça qu'on cherchait à construire, c'est se dire comment, sur des artistes qui sont absolument inconnus, inciter le public à vivre quelque chose avec nous. Et donc plutôt que d'être sur une diversité de 5, 6, 10 lieux différents éclatés sur 3 jours, comment retrouver un camp de base, un lieu unique qui renforce cette expérience d'appartenance, d'une forme de communauté de spectateurs autour d'un parcours. Donc là, l'année dernière, on a initié cela avec TALM, donc qui est l'école d'art située juste à côté d'ici. Donc TALM, c'est l'acronyme pour tout rangèlement. Il y a trois pôles à cette école d'art plastique, qui est une école supérieure avec un cursus en 5 ans, avec des spécialisations, notamment au Mans où il y a un pôle design sonore. Et on sait que dans l'histoire en fait, des avant-gardes, depuis les années 50, il y a toujours eu un grand intérêt, une porosité des arts plastiques aux autres disciplines qui viennent infuser les pratiques, etc. Je pourrais prendre un exemple parmi d'autres, mais le Black Mountain College aux États-Unis, qui était l'expérience d'une forme d'université un peu utopique, dans laquelle se retrouvait un monsieur très important pour nos musiques qui s'appelle John Cage, qui a inventé le piano préparé, entre autres, un travail autour du silence, et où se croisaient des compositeurs de ces musiques-là et des plasticiens, des peintres, des chorégraphes, etc. Et il y a eu toujours, dans l'histoire des avant-gardes, comme ça, des liens très très forts entre les arts plastiques qui ont évolué petit à petit vers la performance et l'installation. Et donc quelque chose qui a trait à une forme de spectacle vivant et de performance devant un public. Voilà. Et donc là, on s'est dit, mais voilà, il y a une école d'art à côté avec un public d'étudiants qui est très friand de découverte, qui a envie d'expérimenter plein de choses, qui est très sensible au son. Et donc voilà, peut-être un terrain de jeu à explorer ensemble. Sur 3 jours, le spectateur va rentrer et peut-être entendre des choses dont il ne se souviendra pas au niveau des références. Mais c'est pas grave, il a vécu un parcours, une expérience, on espère, la plus riche possible.
Comment est-ce qu'on choisit des musiques surprenantes? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire?
La surprise, elle est assez évidente dans le sens où on a écouté de la musique un peu partout, on l'entend partout, qui se fonde souvent sur un rythme, une forme de répétition, de boucle, des harmonies, des mélodies, et que là, on a des propositions musicales qui parfois sont vraiment en dehors de tout ça. On a eu, par exemple, à l'instant, un concert d'Emmanuel Parrainin qui reprend un instrument très ancien qui s'appelle la vielle à roue, qui s'extrait de la notion de couplet, refrain, d'harmonie, etc., parce qu'on est vraiment sur un bourdon, donc sur quelque chose d'assez répétitif. Donc voilà, il peut y avoir tout ce champ de répétition qui est assez surprenant pour, on va dire, le commun des mortels et des gens qui écoutent la musique de manière, on va dire, habituelle. On a aussi des propositions qui vont carrément sortir de la notion d'instrument de musique. Les instruments sont des conceptions, des constructions, même des artistes. C'est-à-dire qu'ils, seuls eux, ont construit cet instrumentarium et sont capables d'en jouer et donc font une musique qui, du coup, est forcément inaudible et crée de fait la surprise. Voilà. Ça peut être par exemple Clément Verseletto qui a construit un instrument à base de soufflerie et de hapeaux, donc les petits sifflets pour les oiseaux. Donc là, qui crée une sorte d'orgue qui imite d'une certaine manière la nature. On a le groupe Wild Eye qui construit des instruments à partir de recyclage et qui fait une espèce de techno un peu tribal et en même temps assez bricolo, hein, qui est vraiment dans cette esthétique-là du DIY. D'ailleurs, YDI, ça vient de DIY, do it yourself. Donc voilà, la surprise peut venir aussi des instruments eux-mêmes. Et puis évidemment, quand on parle d'un glaçon géant qui fond et qui produit des sons en fondant et que ces sons sont triturés, captés et triturés en direct, la surprise, elle est assez évidente. On est quand même assez éloigné de ce qu'on entend en général quand on allume la radio. Voilà. Donc la surprise est assez intense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle d'aller de surprise en surprise et que les surprises soient de différentes natures.
On en est qu'au début, voilà, on ouvre le festival ce soir. Je pense que la performance d'Erwan Keravec tout à l'heure, là, avec les 8 sonneurs, donc les sonneurs, ce sont toute une famille d'instruments, grosso modo, autour de la cornemuse, des cabrettes, enfin d'instruments de musique traditionnelle, qui là joue la musique d'un compositeur américain qui s'appelle Philip Glass. Donc c'est donc un peu une star de ces musiques-là qu'on entend dans des musiques de films par ailleurs. Souvent, je pense que le public a peut-être en tête ces musiques-là sans le savoir par ailleurs. Et donc c'est une musique qui peut être jouée par tout type d'instrument. On peut jouer ces pièces de Philip Glass au piano. Il n'y a pas finalement d'instrument dédié, préféré dans la partition d'un compositeur qui vient de la musique classique au départ. Voilà. On peut jouer la même pièce avec des guitares électriques, par exemple. Donc là, c'est l'expérience avec des cornemuses, quelque chose qui va être très sonore, avec un son qui tourne dans cet espace, un truc un peu hypnotique. Je pense que c'est un peu... On peut se le dire, hein, un peu la pièce maîtresse du festival, enfin un petit peu un acte assez fort. Mais par contre, moi je suis tout aussi excité et impatient de découvrir tout le parcours de demain, parce qu'il faut dire que nous aussi, en fait, pour nous, c'est une découverte. Hein,
voilà. Oui, parce que la programmation, elle est faite par nos jusqu'à présent, le programmateur du Petit Faucheux, donc, qui est parti vers d'autres horizons depuis, et notre programmatrice Marilyn Calvo, qui... Bon, voilà, on fait un peu On fait un travail de tête chercheuse, d'aller découvrir des choses, mais souvent, on ne sait pas exactement quelle sera la forme programmée, en fait, parce que ce sont des artistes qui... Voilà, on ne va pas écouter sur Spotify leur album. Ça ne marche pas comme ça sur ce type d'esthétique. Et en plus, cette année, comme on a ce partenariat avec l'École des Beaux-Arts, on a pas mal de propositions qui viennent de l'école et des étudiants. Et parfois, des choses dont on a, voilà, qu'on a ajoutées au programme au fur et à mesure, y compris jusqu'à la semaine dernière. Voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de surprises pour nous. Donc, c'est effectivement, comme le disait Sylvain... La grande découverte et voilà, donc moi je suis assez curieux de voir effectivement ce parcours de demain. Je parlais tout à l'heure aussi de ces fameux morceaux de glace qui fondent, qui voilà, font évidemment écho avec la situation climatique. Ça, c'est pareil, je suis très, très enchanté de voir ça et clairement, encore une fois, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Voilà, donc on se jette dans le bain avec le public en fait.
Un mot pour décrire le festival ? Question complexe.
Un mot, c'est difficile. J'ai droit à deux mots. Je dirais une expérience sensible.
Pas mal.
Ouais, moi, effectivement, c'était un peu ça que je pensais. On n'est pas sur quelque chose de... Ça peut avoir un premier aspect cérébral, mais en fait, ça s'adresse avant tout au sens. En fait, c'est comme les sons qu'on peut entendre dans la nature, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à Clément Verseletto. Pour moi, il y a aussi un côté ludique, finalement. Construire ses propres instruments, les faire jouer tout seul avec des petits moteurs, des choses comme ça, où voilà, on est quand même sur des... Il y a une notion de jeu derrière tout ça, qui me semble importante.
Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon festival.
Merci. Merci.
Huit sonneurs pour Philippe Glass. En fait, donc Philippe Glass, c'est un compositeur de musique minimaliste contemporaine américain. Et en fait, là, ce répertoire va être repris par un bagad, donc un orchestre, un ensemble de musique bretonne, donc avec des cornemuses, des binious et des bombardes. We'll be right back.
C'est un sacré voyage musical, très impressionné, on en a pris plein les oreilles. Voilà, on a pas mal fermé les yeux quand même pour apprécier l'ensemble, quoi, parce que bon, bah, voilà, c'est...
Ouais, très bonnes interprétations de Philippe Glass à la cornemuse. Ouais, j'étais un peu sceptique, enfin, j'ai vu ça au dernier moment, c'était de la cornemuse. Et au final, ça passe carrément bien, ouais. C'est assez impressionnant. Ils assurent, grave.
Ouais, les instruments avant, les cornemuses et je sais pas ce que c'est les autres instruments, à vrai dire. Mais en tout cas, ça donnait une pêche à Philippe Glass. Voilà, que, alors j'ai envie de dire que peut-être il manque ou je sais pas quand j'écoute. Mais en tout cas, ouais, c'est un superbe idée, superbe projet d'avoir fait ça avec ces instrumentistes. Ouais. Je dois dire que j'ai pas été déçu, quoi. Je n'ai pour ça, quoi. Voilà, c'était très très bien, très bon.
Vraiment, hyper satisfait et assez impressionné par la performance, de l'ensemble des musiciens et aussi de l'orchestration, enfin du déroulé qui est assez différent, un parti pris qui est assez différent de l'enregistrement. En gros, l'ordre est un peu inversé, en fait. On a les pièces qu'on a normalement au début dans l'enregistrement, on se retrouve à la fin. Et en fait, je trouvais que c'était assez réussi parce qu'on a une sorte de montée en palier d'intensité, aussi d'intensité émotionnelle, mais aussi sonore, puisqu'en fait, on a que 4 sonores sur les premières pièces, sur les premières pièces qui sont jouées. Et sur la fin, on a tout l'ensemble, on a à la fin tout un ensemble de 8 sonores. Donc c'est assez... il y avait une montée en intensité qui était une sorte de palier comme ça, de montée progressive, qui était assez ouf, quoi. Ouais, c'est assez fort.
Alors, je suis avec Uliel, on vient d'écouter un concert de cornemuse. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ?
Tu peux préciser que c'est des reprises de Philippe Glass, tout de même, parce que je crois que c'est le truc le plus important. À savoir que déjà, c'est hyper dur à jouer, ce genre de morceau, parce qu'il faut être d'une précision assez extraordinaire. Ça vaut le coup, dans un endroit où il y a un petit peu d'écho. Et comme d'habitude avec Philippe Glass, ça fait toujours d'autres mélodies au travers de la mélodie principale.
Oui, il y a plusieurs partitions au final.
Oui, mais qui ne sont pas écrites les autres. Et c'est à toi de choisir celle que tu veux écouter.
Ah, donc il y a de l'improvisation ?
Non, pas du tout. En fait, c'est la résonance de certaines notes qui provoque le fait que tu aies l'impression que ce soit des nouvelles partitions. En fait, c'est l'accumulation et... c'est presque un peu le principe de phasing de John Cage. Mais après, voilà, ils sont d'autres à avoir fait ça, genre Steve Reich aussi, qui est très très bien dans le genre. Donc,
je connais pas.
Il faut vraiment aller écouter, c'est super hypnotisant comme musique, de manière générale de toute façon. La musique répétitive, c'est toujours, enfin moi j'adore en vrai.
Est-ce que toi, tu connaissais Philippe Glass ?
Je connais un peu, je suis assez intéressé par... assez concerné par tout ce qui est musique contemporaine. Et moi, je suis plus un amateur de Steve Reich, mais forcément, j'ai été amené à écouter pas mal de Philippe Glass. Et je ne suis pas un puriste du tout, ni un grand connaisseur. Mais oui, je connaissais déjà. Et je connaissais aussi le travail de Erwin Karavec, et surtout sur sa reprise, sa réinterprétation de Incy de Terry Riley. Donc du coup, forcément, moi, j'avais absolument envie d'être là ce soir. Donc voilà.
Et toi, Marion ?
Je trouve ça super impressionnant, avec, comme tu dis, tu parles de musique répétitive, en fait, tu te laisses vite entraîner dans quelque chose, et à chaque fois, tu entends des micro-différences entre les répétitions et tout ce qui peut se passer. Il y a un côté assez riche à ça, dans le sens où, malgré un peu la copie, il y a toujours un peu quelque chose de nouveau qui vient s'ajouter à chaque fois. Ça, j'ai bien aimé, et franchement, c'est assez impressionnant, et juste l'utilisation comme ça de cornemuse en groupe, c'est assez rare à voir, et ça fait plaisir en vrai, c'est tout.
Ouais, je suis d'accord. Et toi, Agathe ?
J'ai trouvé ça vraiment magnifique parce que, en fait, on se fait entraîner comme dans une sorte de danse où on est littéralement emporté par le rythme. Quand on écoute ça, tout le son rentre presque en nous. On ne sait plus si c'est à droite, à gauche, et même essayer de lier le son à un participant devient compliqué car on ne sait plus qui fait quel son. Et je trouve ça beau, leurs gestes et leurs actions.
Et toi, est-ce que t'as fermé les yeux ou pas pour écouter ?
Ouais, oui, j'ai fermé les yeux. Je pense que ça vient un peu naturellement. C'est de la musique de trance aussi, donc y a un moment où tu te laisses emporter par le. Ouais, il y a un truc assez primaire en fait, un peu dans ce côté très répétitif de la musique. Il y a une sorte de pulsation qui se met en route aussi dans le subconscient et on se laisse emporter en fait. Je pense qu'il faut pas trop l'intellectualiser, on pourrait avoir envie de l'intellectualiser, mais en fait je pense que c'est plus un truc qui se ressent en fait, et de ressentir ces pulsations et le côté très répétitif en fait t'emmène obligatoirement. Oui, parce que les morceaux peuvent être assez longs parfois, mais on sent pas trop le temps qui passe et on se laisse emporter dans le truc, et le côté répétitif pourrait paraître un peu je pense que si tu te laisses pas porter par le truc, tu peux potentiellement trouver ça long, mais il faut arriver, quand tu lâches prise et que tu te laisses porter par la répétition, ça t'emmène ailleurs en fait. Donc ouais, c'était assez intense. Ouais.
Oui, beaucoup de fois. Et ce qui était assez marrant, c'est que justement, des fois, même je tombais de fatigue suite au rythme qui était souvent le même. Mais du coup, à chaque fois que je revenais, je me refaisais réemporter. Et il y avait ce cycle, sauf quand j'ai décidé vraiment de me concentrer sur eux en particulier, et je voyais d'autres choses, les questions des lumières aussi qui avaient été travaillées dans le mouvement.
Ah, je parlais que du deuxième, moi, là.
Ouais. Je parlais du deuxième. Parce que ça vient de terminer, mais le premier était très bien aussi. J'ai plus le nom des artistes, je suis désolé. Mais oui, la vielle, j'ai pas l'habitude d'en écouter, donc je sais pas comment ça se joue traditionnellement, mais comme ça, c'est génial. C'est hypnotique aussi parce que, enfin ouais, c'est planant. Hein. C'est des nappes chamaniques, et puis très intéressant avec un peu d'électro, avec quelques machines qui viennent ponctuer. Enfin, ils se sont mis d'accord. C'est un très bon projet aussi. Ouais. Merci à eux. Merci à tous.
Ces esthétiques un peu radicales, un peu voilà. Proche de l'art sonore ou de la performance. Bah ouais, hybridation aussi un peu entre des choses modernes et des choses traditionnelles. Et puis il y a le côté, je dirais, ouais, le côté un peu trans. Voilà, le côté ouais, essayer de se lâcher de ouais, expérience sensorielle un peu mystique. Voilà.